qui est historien et qui va nous parler des Juifs et de la résistance juive dans la région Rhône-Alpes et région élargie effectivement du Rhône-Alpes. Il était venu déjà présenter il y a 3 ans lors d'un gros colloque organisé des amis ici, dont mon mari également, sur la résistance. 3 grosses journées et Philippe faisait partie déjà des intervenants. Des livres sont sortis là-dessus, des livres que l'on peut trouver plus peut-être dans nos régions, mais voir aussi dans les, je suppose, sur Internet. Et il y a dedans le travail qu'avait fait Philippe. Je lui laisse la parole pour la donner à ensuite à notre amie Jeanne Brousse, dont hier je vous ai beaucoup parlé, mais que vous voyez là maintenant, qui est notre doyenne déjà du groupe Amitié judéo-chrétienne d'Annecy, mais surtout première médaillée femme des Justes, et pour le travail remarquable qu'elle va dire en quelques mots, car elle pourrait raconter énormément de choses extraordinaires vu sa grande mémoire sur tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, on va être limité ce matin par le temps. Je vous passe, Philippe.
Bon. Mais c'est mieux l'autre. Merci, Eliane, et bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par un certain nombre d'idées générales pour expliquer exactement ce que c'est que la résistance juive et en quoi est-ce que ce thème, cette notion ou ce concept peuvent être matière à réflexion dans le cadre de nos échanges judéo-chrétiens. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai une approche locale de cette résistance juive dans cette région où nous nous trouvons, à la fois une approche locale et régionale. Je vous donnerai des exemples qui sont vraiment des exemples de proximité dans cette ville, dans les villes environnantes. Je pense que et finalement, une des choses fondamentales que nous essayons d'expérimenter dans nos dialogues, c'est la reconnaissance du fait juif par le monde chrétien. Le fait juif vivant, et non pas simplement le fait juif comme un vestige du passé, comme quelque chose d'antérieur au christianisme, mais de périmé. Toute notre expérience que nous essayons de vivre ensemble, c'est justement que le judaïsme est bien vivant, et ça demande un véritable effort de rencontrer le judaïsme dans toutes ses facettes, dans toutes ses composantes. Parce que si on ne le rencontre pas, ben on imagine qu'il n'existe pas, en fait. Pour savoir que quelqu'un existe, il faut soit l'avoir rencontré, soit avoir rencontré quelqu'un qui l'a rencontré, vous voyez. Et donc, cet exemple que je vais développer maintenant de la résistance juive, ça fait partie, en fait, de cette problématique. Parce que, avec les meilleures intentions du monde, on peut avoir de la compassion pour la persécution subie par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et avoir de l'admiration pour les Justes parmi les nations, pour ceux qui ont reçu cette médaille, et puis pour tous ceux qui ne l'ont pas reçue, mais qui auraient pu la recevoir. Une fois qu'on a compris qu'il y a eu une persécution terrible contre les Juifs, et qu'il y a eu un courage remarquable des Justes qui les ont aidés, on n'a pas encore compris certains aspects de la réalité de l'époque, c'est-à-dire la résistance très forte que les Juifs eux-mêmes ont organisée pour se protéger eux-mêmes. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de doigté, c'est un exercice très délicat d'essayer de trouver le bon équilibre, la bonne pondération entre tous ces facteurs. Il y a la persécution d'un côté, il y a tous ces non-juifs qui n'étaient pas partie prenante à la persécution, mais qui au contraire ont aidé à des degrés divers. Donc les Justes, c'est un petit peu le degré maximum de l'aide, de la solidarité, mais il y a des degrés inférieurs à celui de Justes qui ne sont pas négligeables du tout. Vous avez ceux qui ont aidé par des petits gestes ponctuels, et c'est déjà très, très précieux. Des gens qui, une fois, à un moment précis, ont donné une aide qui a pu permettre de continuer le chemin. Et vous avez les gens qui ont fait ce que j'appelle du soutien passif. Le soutien passif, c'est tout simplement s'abstenir d'aider la persécution. Vous voyez, beaucoup de gens ont aidé les Juifs tout simplement en ne leur faisant pas de mal. Ce qui était c'est un degré minimal, mais ce qui est déjà très précieux. Le fait d'avoir compris qu'on avait des voisins juifs et de ne pas les dénoncer, de regarder ailleurs, c'était déjà une forme très intéressante de soutien. Donc tout ça, ça fait partie du tableau, il faut respecter toutes ces nuances, mais il y a un maillon de la chaîne qu'il faut bien prendre en compte pour avoir une vue exacte des choses, c'est l'effort que les Juifs eux-mêmes ont déployé pour se sauver eux-mêmes. C'est-à-dire, si le judaïsme était vivant à l'époque, puisqu'on suppose qu'il est vivant aujourd'hui, mais il était vivant à l'époque aussi, vous voyez, le judaïsme vivant ne s'est pas laissé persécuter passivement, le judaïsme vivant s'est défendu. Et heureusement, en se défendant, il a rencontré des partenaires, des amitiés, des complicités de toutes sortes parmi les non-juifs. S'il n'y avait pas eu ces amitiés et ces complicités, aucun résultat n'aurait été possible. Voyez. Mais pour déclencher ces amitiés et ces complicités, il fallait qu'il y ait un effort des juifs eux-mêmes pour se défendre. Et c'est ça le concept de la résistance juive. Voyez. Alors là encore, évitons des malentendus sur le vocabulaire, sur la sémantique. Quand je parle de résistance juive, je ne parle pas de la participation d'un grand nombre de juifs à la résistance, ce qui est en soi déjà un phénomène intéressant. Dans toute la France, les juifs ont été très présents dans les débuts de la résistance, puisque en 1940-1941, il fallait être un peu fou pour résister aux nazis. Étant donné que le monde entier croyait que la victoire des nazis était acquise, s'opposer à quelqu'un qui apparemment dominait l'Europe pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, c'était vraiment quelque chose de tout à fait utopique. Donc une poignée de Français l'ont fait, et beaucoup de Juifs l'ont fait dès 1940. Vous avez cette boutade qu'on attribue au général de Gaulle, mais qui est vérifiée. Il disait que quand il a créé la France libre, il attendait que les Français viennent nombreux, puis ceux qui sont venus, c'était la synagogue et quelques braves pêcheurs de l'île de Saint. Hein, il a bien dit, puisque René Cassin atteste qu'il a entendu ça du général de Gaulle. Donc les Juifs étaient très présents dans les débuts de la résistance française, et par la suite, quand la résistance a grandi, la proportion de Juifs a diminué, évidemment, mais ils étaient parmi les cadres et les dirigeants de la résistance, puisqu'ils étaient là depuis le début, vous voyez, ils étaient là parmi les fondateurs. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux pas parler du fait que des individus juifs se sont mêlés à tous les Français patriotes, et même aux étrangers qui voulaient aider la France à l'époque, qui eux aussi ont joué un rôle très intéressant, les étrangers vivant en France et qui ont voulu honorer la France en faisant de la résistance. Parce que finalement, tous ces individus juifs qui se sont mêlés aux résistants, eh ben, ils ont agi en tant que Français ou en tant qu'étrangers résidant en France. Ils ont fait leur devoir, mais on ne peut pas isoler dans leur conscience ceux qui relevaient du judaïsme et ceux qui relevaient tout simplement de l'humanité. Vous voyez. Donc c'est ce dont je veux parler, c'est des efforts organisés par les juifs en tant que tels pour se protéger eux-mêmes, ce qui n'est pas la même chose. Vous voyez. Parce que malheureusement, alors là j'ajoute une donnée qui malheureusement est importante à prendre en compte, c'est que malheureusement les historiens qui travaillent sur ces sujets aujourd'hui nous expliquent que la résistance française en tant que grande mouvance, en tant que grande famille combattante, n'a pas beaucoup pris en compte la persécution des juifs comme un de ses buts militants, comme un de ses buts tactiques et stratégiques. Il y a eu, bien entendu, condamnation de la persécution des juifs à différents stades de la persécution. La résistance est prononcée. Quand je dis la résistance, c'est aussi bien la France libre que la résistance intérieure. Il y a eu des protestations, mais malheureusement, ces protestations n'ont pas été très vigoureuses au début. Elles ont été très vigoureuses à un moment précis, qui est l'été 1942, au moment des grandes rafles dans les deux parties de la France. Mais même après les grandes rafles, la vigueur de ces protestations a diminué. Il y a eu un appel aux Français pour qu'ils aident les Juifs. Mais finalement, quand vous faites le bilan concret de ce que la résistance en tant que telle a fait pour aider les Juifs, ça reste très modeste. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, ceux qu'on appelle les justes parmi les nations, dans la majorité des cas, n'étaient pas des résistants. Je dis bien dans la majorité des cas. Il y a une minorité d'entre eux seulement étaient des résistants, et la majorité des résistants n'étaient pas des justes parmi les nations, même si une minorité parmi les résistants étaient des justes parmi les nations. Je ne connais pas votre histoire personnelle, madame, donc vous nous le direz peut-être. Est-ce que vous étiez dans les deux groupes en même temps? Mais en général, on était un résistant ou on était un juste, mais on n'était pas les deux en même temps, parce que finalement, la résistance en tant que telle ne valorisait pas beaucoup l'aide aux Juifs comme un but stratégique. Ce qui fait que qui est-ce qui s'est occupé concrètement du sauvetage des Juifs, de tenter de sauver des vies humaines juives? Ben, c'était les Juifs eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire c'était les individus juifs et les familles juives qui se sont débrouillés comme ils ont pu sur le terrain, et puis les groupes juifs organisés qui ont pris en charge, voyez, la détresse de leur propre collectivité. Et heureusement, ils ont trouvé des relais. Alors, soit des relais individuels. En général, quand on parle des justes, ce sont des individus qui se sont manifestés spontanément ou qui ont répondu à une demande de manière directe. Soit il y a quelques collectivités non juives qui se sont mobilisées en tant que telles, mais ce sont plutôt des exceptions. Et je dois le dire, puisqu'on est dans les amitiés judéo-chrétiennes aujourd'hui, que les deux groupes que les historiens ont repérés comme étant les exceptions qui confirment la règle, les deux groupes de résistants français qui, en tant que résistants français, se sont engagés à fond pour le sauvetage des Juifs, c'était deux groupes chrétiens. c'était le groupe du témoignage chrétien, qui est bien connu. Vous voyez, le journal clandestin du témoignage chrétien, qui, dès 1941, s'exprime très clairement sur la question de l'antisémitisme dans ses publications, et qui se mobilise très vigoureusement à travers ce qu'on appelle l'amitié chrétienne. Hein. Ce n'est pas l'amitié judéo-chrétienne, mais l'amitié chrétienne, qui est un petit peu le bras, le prolongement du témoignage chrétien. Là, on a un réseau chrétien qui, en tant que tel, s'engage en faveur des Juifs, et on voit bien que ça a quelque chose à voir avec l'identité chrétienne de ce groupe. Ils se disent qu'en tant que chrétiens, ils doivent justement faire en sorte que le lien avec le judaïsme se manifeste concrètement. Et puis, l'autre groupe qui est beaucoup moins connu, et j'ai toujours beaucoup de satisfaction à le mettre un peu en valeur, c'est un groupe qui s'intitule « La France continue ». C'est un petit journal clandestin qui est apparu à Paris en 1941, et qui est animé par des intellectuels catholiques, et qui, dès le début, s'exprime très vigoureusement contre l'antisémitisme, vous voyez, bien avant les grandes rafles, à l'époque où l'antisémitisme était encore à un degré qui n'avait pas atteint le degré maximal. Donc, ce sont des exceptions très intéressantes, mais ce sont des exceptions, vous voyez, c'est-à-dire que, finalement, vous avez compris pourquoi je veux en venir maintenant à ce qu'on appelle la résistance juive, c'est-à-dire l'effort des Juifs eux-mêmes pour se défendre, pour lutter contre leur ennemi en tant que groupe, en tant que collectivité. J'ajouterai une chose quand même qui reste très générale, c'est que quand on réfléchit à ce qu'était la politique des nazis en Europe, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, on s'aperçoit que pour les nazis, eux, la persécution des Juifs n'était pas quelque chose de secondaire. La persécution des Juifs, elle était au cœur de toute la vision du monde des nazis. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez les résistants et les alliés en général, pas seulement les résistants, les alliés qui défendaient les Juifs de manière un petit peu platonique, mais qui ne s'engageaient pas beaucoup là-dessus, ce n'était pas au centre de leur vision du monde. D'un autre côté, du point de vue des nazis, attaquer les Juifs, c'était le cœur même de leur politique. C'est-à-dire que l'exemple le plus évident, vous voyez, c'est qu'en 1944, les Allemands réservent leurs trains pour déporter les Juifs, alors que leur armée aurait besoin de ces trains pour l'armement et pour le ravitaillement. Quand Hitler, vous voyez, rédige son testament en 1945, il dit « Nous allons perdre la guerre militaire, mais nous avons rendu service à l'humanité en détruisant un très grand nombre de Juifs. Hein. » Donc, d'un côté, les nazis, eux, on attache une importance primordiale à la destruction des Juifs, et face à cette vision des nazis, les seuls, finalement, qui sont mobilisés de manière frontale, ce sont les Juifs eux-mêmes, vous voyez. Les Juifs eux-mêmes, et heureusement, leurs amis, leurs alliés, vous voyez, mais leurs alliés ou leurs amis ne sont pas des États, ce ne sont pas des armées, ce sont des individus de bonne volonté, ce qui est évidemment très honorable, mais ça n'a pas la puissance qu'auraient eu des armées engagées pour défendre les Juifs. Hein. Alors ça, c'est l'idée générale, si vous voulez, que je veux maintenant préciser, en disant que la résistance juive, elle se décline essentiellement sous trois modalités. La première modalité, ce qui découle de ce que je viens de vous dire, c'est la tentative de sauver des vies humaines, c'est-à-dire procurer aux Juifs menacés des faux papiers pour qu'ils vivent sous de fausses identités, procurer aux Juifs déstabilisés économiquement des subsides pour qu'ils puissent, qu'ils puissent subsister matériellement, faire passer la frontière vers des pays neutres pour des Juifs qui sont pas dissimulables, entre guillemets. Je prends l'exemple, vous voyez, en général, les Juifs qu'on ne pouvait pas dissimuler, c'était soit ceux qui ne parlaient pas du tout la langue du pays où ils se trouvaient, parce qu'ils venaient d'arriver, ils n'avaient pas eu le temps d'apprendre quoi que ce soit de la langue du pays, soit ceux qui avaient un mode de vie tellement strict sur le plan religieux qu'on ne pouvait pas les escamoter n'importe comment. Donc ça voulait dire, ceux-là, il fallait les mettre dans des pays neutres, sinon on n'arriverait pas à les protéger. Hein. Et puis les autres, donc, leur procurer des faux papiers, des subsides, en ce qui concerne des enfants, les placer dans des familles d'accueil, vous voyez, plutôt dans les régions rurales, etc., etc. Il y avait toutes sortes de méthodes pour aider les gens à survivre. Et c'est très intéressant de voir que ce travail a été fait pendant la guerre, essentiellement, vous voyez, par les œuvres sociales juives. Ce que je vous dis là est valable, en fait, pour toute l'Europe, mais on va essayer de la préciser ensuite dans le contexte français. Qui a fait ce travail d'aider à la survie des populations juives, c'était essentiellement trois acteurs militants dans les communautés juives. En premier lieu, c'était les œuvres sociales juives. Parce que tout simplement, vous voyez, vous qui commencez à avoir l'expérience de la rencontre avec les Juifs, vous savez que dans toute communauté juive du monde, les œuvres sociales sont une composante fondamentale. La tzedaka, la solidarité, vous voyez, ou la charité, comme vous le voulez, c'est quelque chose qui est aussi important que la prière. D'ailleurs, on le dit au moment de Yom Kippour, on dit solennellement que la prière, le repentir et la tzedaka, donc littéralement c'est la justice, ce sont les piliers sur lesquels, vous voyez, repose le monde et repose le judaïsme. Hein. Donc dans toute communauté juive organisée, il y a de la tzedaka, il y a des œuvres sociales structurées. Vous avez d'ailleurs beaucoup de juifs à travers les générations qui n'étaient pas très chauds pour l'engagement cultuel strict, mais qui investissaient leur judaïsme dans le travail social. C'est-à-dire des gens qui, leur manière à eux de témoigner, vous voyez, leur judaïsme, c'était d'aider autrui, d'aider son prochain. Ce qu'on appelle les mitzvot ben adam le chavero, c'est-à-dire les mitzvot qui nous engagent envers notre prochain et pas simplement envers celui qui est au-dessus de nous. Donc, dans toute communauté juive, il y avait des œuvres sociales qui avaient l'habitude d'aider les pauvres, d'aider les malades, d'aider les personnes âgées, d'aider le mariage des filles qui n'avaient pas de dot, vous voyez, c'était les fonctions traditionnelles, d'enterrer les morts. Et confrontés à des situations désastreuses comme celle de la Shoah, ces œuvres sociales ne se sont pas contentées de s'occuper d'assistance matérielle ou morale, mais il y a eu à un moment donné le passage de l'assistance au sauvetage. Vous voyez, le sauvetage, c'est le concept qu'on emploie pour dire que ce n'est pas simplement aider à vivre, mais aider à survivre. Et donc, selon les pays, en Europe, le passage au sauvetage se fait plus ou moins tôt, selon que la menace physique arrive plus ou moins tôt, vous voyez, les nazis ayant modulé un petit peu leur politique. Donc ça, c'est le rôle des œuvres sociales qui est tout à fait majeur. Il faut le compléter par le rôle des rabbins. Ça n'est pas assez connu, mais les rabbins ont joué un rôle formidable dans le sauvetage des Juifs. Alors, pas tous les rabbins dans toute l'Europe, mais dans certaines régions, certains corps rabbiniques ont joué un rôle formidable. Et c'est particulièrement vrai en France. C'est pour ça que je m'y attarde. En France, les rabbins ont été des militants exemplaires de la résistance juive, de la protection de leur communauté. D'ailleurs, un tiers des rabbins en France sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, quelques-uns sont morts simplement de vieillesse ou de maladie, mais la plupart sont morts dans des activités de résistance. Donc les rabbins sont une composante qui s'ajoute aux œuvres sociales. Et la troisième composante qui est très intéressante, je crois, ce sont les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse, c'est une réalité du XXe siècle, vous voyez, c'est une réalité moderne, contemporaine, parce que ça exprime la volonté d'émancipation des jeunes qui ne sont plus dans des patronages sous la tutelle des adultes, mais qui se prennent en charge eux-mêmes dans une auto-éducation. C'est un grand mouvement du XXe siècle de modernisation et en même temps de continuité des traditions. C'est très intéressant comment les mouvements de jeunesse ont su combiner la modernité avec la transmission de valeurs traditionnelles. Donc il y a un scoutisme catholique, protestant, mais il y a un scoutisme juif qui a joué un rôle fondamental dans toute l'Europe dans la modernisation des communautés juives. Et le scoutisme juif a une variante qui est les mouvements de jeunesse sionistes. En fait, le mouvement sioniste a beaucoup travaillé dans la jeunesse à travers des mouvements de jeunesse qui étaient tous des mouvements scouts qui, à un moment donné, ont intégré un certain nombre de valeurs, de références idéologiques sionistes à l'intérieur même du scoutisme. Hein. Et donc, voilà, les mouvements de jeunesse ont procuré dans toute l'Europe un réservoir de jeunes idéalistes, de jeunes dévoués, à partir de 16-17 ans. Et déjà, quand ils avaient 20 ans, ils étaient des cadres, des dirigeants des mouvements de jeunesse, et ils ont été des acteurs formidables du sauvetage des autres juifs. Donc, maintenant que... Là, je vous ai présenté simplement les acteurs de ce travail de sauvetage des juifs par des juifs. Une question supplémentaire, c'est avec quel argent on pouvait faire ce sauvetage. Parce que, déjà, dans un premier temps, il y avait l'assistance, quand la vie n'était pas encore menacée, procurer des subsides aux gens qui avaient tout perdu. Mais déjà, pour l'assistance et a fortiori pour le sauvetage, il faut des ressources financières, puisque, par exemple, accompagner des enfants à la campagne pour les y cacher, c'est bien, mais il faut payer une pension régulièrement aux familles d'accueil. Eh bien, l'argent venait des États-Unis. L'argent venait du judaïsme américain, vivant en liberté, qui a été d'une générosité extraordinaire pour aider à la survie des autres juifs vivant en Europe. Et ils sont passés par des intermédiaires très compliqués, que je n'ai pas le temps de vous présenter maintenant, en passant par la Suisse, par l'Espagne, par les pays neutres, ils ont réussi pendant toute la guerre à faire parvenir des grandes sommes d'argent en dollars qui sont arrivées sur le terrain. Vous voyez, quand un enfant dans une ferme, quelque part en France, voyait arriver une jeune monitrice des mouvements de jeunesse avec l'argent de sa pension, il ne pouvait pas se douter que ça venait d'Amérique, vous voyez, à travers 10 ou 20 intermédiaires. Et c'est seulement maintenant que ces enfants sont devenus des grands-parents qu'en général, ils apprennent que c'est comme ça qu'ils ont été sauvés, vous voyez, pendant la guerre. Donc là encore, on retrouve c'est ce qu'on appelle le joint américain. Le joint, c'est donc cette grande organisation caritative du judaïsme américain. Là encore, si vous réfléchissez, on retrouve l'aide des juifs pour les juifs, vous voyez. C'est-à-dire que quand on regarde de près les choses, on voit que dans certains cas, on a un certain nombre d'hommes de religion catholiques et protestants qui ont convoyé de l'argent pour aider les juifs. Notamment les Quakers américains, il y a un certain nombre d'œuvres protestantes américaines qui, grâce à la neutralité de leur pays, ont pu être des intermédiaires très intéressants à certains moments pour accéder à des endroits, vous voyez, légalement, et souvent ils amenaient de l'argent. Mais quand on remonte les filières, pratiquement toujours on retrouve de l'argent juif qui est passé par des mains non-juives pour retrouver les juifs qu'il fallait aider. Hein. Donc ça, vous voyez, ça ne diminue pas le mérite de ces Quakers qui ont fait ce genre de mission. Mais au bout du compte, on retrouve, vous voyez, cette énergie des juifs pour se sauver eux-mêmes. Alors je ne développe pas plus parce que je veux terminer cette présentation générale et garder un petit peu de temps pour la région où nous nous trouvons. La deuxième forme de résistance, je vous ai dit qu'il y avait trois modalités de la résistance juive en Europe. La deuxième modalité de la résistance juive en Europe, c'est la résistance militaire. C'est-à-dire, en fait, ça correspond à la définition très classique de la résistance. Vous voyez, jusqu'aux années 1980, en France, on ne prenait en compte comme définition de la résistance que les gens qui avaient pris les armes contre l'ennemi ou les gens qui avaient aidé les armées à travers, par exemple, le renseignement ou bien l'exfiltration des pilotes. Hein. C'était des services rendus sur le plan militaire. C'était ça la définition conventionnelle de la résistance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait beaucoup de mal à reconnaître les justes parmi les nations comme des résistants, comme si aider à la survie des justes n'était pas un acte de résistance. Et maintenant seulement, on commence à intégrer l'aide aux juifs comme une forme de résistance, dans la mesure où c'était s'opposer à une visée des nazis. Hein. Donc, il y a eu des juifs qui ont fait de la résistance militaire, mais qui ne se sont pas contentés de se joindre aux organisations militaires déjà existantes de la résistance. Des juifs qui ont créé des organisations juives de résistance, vous voyez, et de résistance militaire. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont éprouvé le besoin de prendre les armes en tant que juifs? Ben, d'abord, il y a une raison symbolique, c'est-à-dire l'idée que les nazis propageaient dans toute l'Europe, l'idée que les juifs étaient des gens inférieurs, des gens méprisables, des gens qui n'avaient aucune valeur humaine. Et d'après les critères même de l'ennemi, vous voyez, c'était la force qui comptait, la force musculaire. Donc sur ce terrain-là, se battre en tant que juif avec des symboles juifs, par exemple avec un drapeau juif, c'était évidemment très intéressant de redresser, de contester ce stéréotype négatif en défendant une image du juif combattant. Si on avait le temps, je développerais ce point longuement. Il y a toute une problématique intéressante à l'intérieur même du monde juif, de la discussion sur l'usage de la violence. Vous voyez, au XXe siècle, les juifs ont eu à discuter de cette question. Dans quelle mesure est-il légitime pour nous juifs de faire la guerre, les armes à la main? Alors, dès le XIXe siècle, lorsque les juifs sont devenus citoyens de différents États, ils ont eu, sans qu'on leur demande leur avis, à servir dans les armées et à faire la guerre. Et d'ailleurs, la France est le premier pays où les juifs ont eu à être soldats et à faire la guerre qu'en tant que citoyens. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la discussion a commencé. Mais là, la réponse était un peu biaisée, puisqu'il fallait obéir à la loi du pays en étant soldat pour son pays. Mais se battre en tant que juif pour défendre les juifs, c'est une autre problématique, vous voyez, les armes à la main. Et ça, ça renvoie à une discussion qui remonte, en fait, à l'Antiquité, qui remonte à l'histoire de Yohanan ben Zakkai, qui renonce à se battre militairement contre les Romains alors que ses co-religionnaires, ses compatriotes sont en train de se battre, eux, violemment contre les Romains. Vous avez à l'époque de Masada, vous voyez, à l'époque de Bar Korba, de grandes discussions. Rabbi Akiba, par exemple, légitime la guerre que est en train de mener Bar Korba au moment même, alors que peu de temps auparavant, Yohanan ben Zakkai, lui, avait désapprouvé le recours à la violence. Ce sont de grandes discussions très intéressantes. Et ce qui est passionnant, c'est qu'au XXe siècle, les premières expériences de juifs qui se battent les armes à la main pour défendre la vie des juifs, C'est pas pendant la Shoah que ça se produit. Ça commence fin du 19e siècle avec les grands pogroms en Russie. Vous voyez, quand les grands pogroms ont commencé, se sont constitués ce qu'on appelle les groupes d'autodéfense. Des réseaux de groupes d'autodéfense qui ont pris les armes. Et comme les pogroms sont allés crescendo, il y a eu une montée en puissance de cette autodéfense juive en Europe de l'Est. Et c'est ça la matrice qui amène pendant la Seconde Guerre mondiale à la naissance de groupes armés juifs un peu partout en Europe. Et ces groupes armés juifs se font référence explicitement à Bar Korba, luttant contre les Romains, les armes à la main. Ils font référence à Masada, et ils font référence aussi au Maccabim, vous savez, à la lutte des Asmonéens contre les Séleucides, c'est-à-dire en fait les trois grands épisodes antiques de guerriers juifs qui ont été des héros militaires. Et ce qui est assez passionnant, c'est de voir que ceux qui utilisent ces références sont souvent des gens qui ont pris beaucoup de distance par rapport au judaïsme religieux. Ce sont souvent des juifs communistes ou socialistes ou des sionistes très à gauche qui utilisent encore ces symboles-là, vous voyez, parce qu'en fait, c'est le judaïsme rabbinique classique qui, lui, avait enseigné, au contraire, la méfiance envers la violence sous toutes ses formes, vous voyez. Et le judaïsme religieux au XXe siècle, lui-même, a été traversé de discussions sur ce sujet. Donc je n'approfondis pas, mais je voulais simplement toucher du doigt cette discussion. Alors on a des groupes armés juifs dans toute l'Europe qui se battent les armes à la main. L'exemple le plus spectaculaire, ce sont les révoltes armées dans les camps de mise à mort que les nazis ont organisé, vous voyez, sur les 6 grands camps d'extermination en Pologne, 3 se sont révoltés. Révolte réussie à Treblinka et à Sobibor en 1943, révolte ratée à Auschwitz-Birkenau en 1944. 3 camps sur 6 se sont révoltés. Vous avez des dizaines de révoltes dans les ghettos d'Europe de l'Est, la plus connue étant bien sûr celle du ghetto de Varsovie, vous voyez. Et vous avez donc environ 20 000 juifs qui se battent comme partisans dans les forêts en Europe de l'Est, dans des groupes juifs de partisans. Le groupe le plus connu, c'est le groupe Bielski en Biélorussie, avec 1 000 000 de partisans juifs, vous voyez, regroupés en tant que tels. Mais c'est vrai aussi à l'ouest de l'Europe. Et donc on a en Belgique et en France des groupes armés de juifs communistes et des groupes armés de juifs non communistes. Et je vais y venir dans un instant pour la France. Hein. Donc ça, c'est le côté militaire, vous voyez, la résistance armée des juifs en tant que telle. Et dernière modalité de la résistance juive, c'est ce qu'on appelle la résistance spirituelle. C'était ça d'ailleurs le thème de votre colloque régional il y a 3 ans, la résistance spirituelle chrétienne. Et nos amis chrétiens qui ont organisé le colloque m'avaient demandé de manière un peu ingénue, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les juifs? Alors je leur ai répondu oui, il y a quelque chose à dire sur les juifs, et j'ai essayé de présenter un bref aperçu de ce qu'on pourrait développer qui est extrêmement riche. Qu'est-ce que c'est la résistance spirituelle? Eh bien, c'est l'idée qu'il ne suffit pas de survivre physiquement en tant que juif. Il ne suffit pas d'avoir des juifs vivants physiquement, mais il faut que les juifs soient vivants symboliquement. C'est-à-dire que l'identité juive elle-même ne se perde pas. On aurait pu imaginer un scénario où la majorité des juifs d'Europe survivent, mais où leur identité se perd en route. Vous voyez, c'est-à-dire que pour survivre, le prix à payer serait un abandon complet à la fois de l'héritage religieux et de tout l'héritage culturel. Alors bien entendu, l'identité juive d'avant-guerre, elle n'était pas que religieuse. Il y avait toutes sortes de combinaisons entre le religieux, le culturel. Mais en tout cas, il y avait un contenu très riche de l'identité juive avant la guerre. Et le combat de la résistance spirituelle, c'était de garder vivant cet héritage-là pendant la guerre, pour qu'après la guerre, les juifs vivants soient vraiment juifs sur le plan de leur identité. Hein. Et en particulier, c'est vrai pour les enfants, il fallait que les enfants juifs reçoivent une éducation juive en temps de guerre. Parce que, si vous me permettez un petit aperçu personnel, ma mère a survécu pendant la guerre, adolescente, tant bien que mal, avec une famille juive d'accueil. Et puis à un moment donné, elle a passé 1 an dans une institution catholique. Et ma mère, comme des milliers d'autres enfants juifs de cette période, connaît extrêmement bien le catholicisme, et elle n'a reçu aucune éducation juive. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle en connaît beaucoup plus sur le catholicisme que sur le judaïsme. À Paris, au même moment, il y avait une cousine à elle, dont elle ignorait d'ailleurs l'existence, et c'est moi qui ai retrouvé sa trace beaucoup plus tard. J'ai retrouvé le journal tenu par sa cousine qui avait le même âge. Elle passe au début de la guerre, elle est très malheureuse d'être juive, ça lui attire que des ennuis, elle voit pas pourquoi elle est juive, et elle admire ses amis catholiques, elle a envie de devenir catholique. C'est ce que dit le journal. Et puis le journal s'interrompt, il reprend en 1944, Alors malheureusement, entre-temps, ses parents ont été arrêtés et déportés, et elle, elle est dans une maison d'enfants juives. Et là, il y a les éclaireurs israélites de France qui l'ont encadrée, et elle est enthousiaste pour le judaïsme, elle veut apprendre l'hébreu, elle est en train d'apprendre l'hébreu, et elle veut faire son alia. C'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs, après la guerre. Elle est allée vivre en Israël, et elle a eu... D'ailleurs, elle a une histoire très intéressante que j'ai découverte beaucoup plus tard, c'est qu'elle a été au cœur de toutes ces activités de résistance que j'essaie de décrire, que je vais quand même vous décrire dans un instant. Donc, vous voyez, c'est ça la résistance spirituelle, c'est le fait de... Aujourd'hui, on emploie beaucoup le terme de résilience, c'est de permettre à des enfants d'avoir un contenu concret positif à leur identité juive. Qu'être juif, c'est pas simplement une source de malheur et une source de honte, mais ça peut être une source, au contraire, de joie et de valeurs positives. Hein. Et pour ça, il fallait un travail éducatif. Évidemment, ça concerne aussi les adultes, que les adultes gardent le visage humain jusqu'au bout, vous voyez, à travers des activités nobles et humanistes, mais surtout le devoir des adultes envers les enfants, de leur donner une véritable éducation juive en temps de guerre. Alors, j'en viens maintenant, vous voyez, j'ai dressé un tableau très rapide de ce qu'on appelle la résistance juive et des trois formes que ça peut prendre. Hein. D'ailleurs, dans les formes de la résistance spirituelle, il faudrait dire quand même qu'il y a la notion d'archive clandestine qui est importante, c'est-à-dire le fait de constituer des archives documentées, de constituer une documentation clandestine permettant de conserver des traces de ce qu'on est en train de vivre pour la postérité. C'est une forme particulièrement noble de la résistance juive. Vous voyez cet effort d'archivage clandestin qui s'est fait un peu partout en Europe. Alors justement, je vais vous donner des exemples maintenant ici. En ce qui concerne le sauvetage, vous voyez, et comme nous sommes dans une région frontalière, bien on peut dire que la résistance juive dans cette région a été particulièrement active pour faire passer des enfants en Suisse, vous voyez. Je voudrais... alors, j'avais fait une liste que je mettrai dans la version écrite qu'on a convenu de publier, une liste de lieux de la région où il y a eu soit des maisons d'enfants juifs pendant une certaine période, soit des opérations diverses, vous voyez, de passage d'enfants et de transfert d'enfants. Mais pour aller à l'essentiel, je vais vous citer le nom de deux jeunes femmes juives qui ont payé de leur vie... l'effort qu'elles ont fait pour sauver la vie des enfants qu'on leur avait confiés. Ce qui est intéressant, c'est que l'une a pris la place de l'autre. C'est-à-dire que lorsque la première est tombée, vous voyez, la seconde l'a remplacée et est tombée à son tour. Alors, toutes les deux faisaient partie du mouvement de la jeunesse sioniste, vous voyez, c'est-à-dire en fait la fédération de tous les groupes de jeunesse sioniste. Et la première s'appelle Mila Racine. Elle était née à Moscou, vous voyez, en 1921. Et c'est à... oui, on est en zone italienne ici, donc jusqu'à septembre 1943, les Juifs bénéficient au contraire de beaucoup d'oxygène, vous voyez, dans lequel ils peuvent s'organiser assez librement. Mais après septembre 1943, les choses sont assez désastreuses. Et c'est le 21 octobre 1943 qu'elle est arrêtée avec un convoi d'enfants à Saint-Julien en Genevois, et elle est conduite avec les enfants à Annemasse, hein, dans l'hôtel Pax, qui avait été transformé en prison par la Gestapo. Et là, il y a le rôle, justement, d'un juste parmi les nations, qui est M. Jean Defoe, qui était le maire de la ville, qui avait le portrait du maréchal Pétain dans son bureau. Voilà, il avait le portrait du maréchal Pétain dans son bureau, mais en même temps, il a joué un rôle formidable pour protéger ses enfants, alors que les convoyeurs avaient été arrêtés. En fait, les réseaux de résistance juive ont essayé d'organiser l'exfiltration de Mila Racine, et c'est elle qui a refusé, qui a voulu rester avec les enfants jusqu'au bout. Donc, grâce au maire Jean Defoe, les enfants ont pu être épargnés. Ça a été extrêmement compliqué de manœuvrer avec Vichy, avec les Allemands, mais il a pu obtenir que les enfants restent sur place. Elle, par contre, a été envoyée à Montluc, comme vous savez, donc c'est le grand lieu de détention régionale. Et de Montluc vers Ravensbrück, elle a été déportée. Alors, on a des témoignages sur elle de Marie-Jo Chambardelot, vous voyez, de beaucoup de résistantes qui ont témoigné de son attitude remarquable dans le camp. Et puis malheureusement, elle est morte dans un bombardement allié à Mauthausen, hein, au moment d'un transfert plus exactement de Ravensbrück vers Mauthausen. Alors quand Mila Racine a été arrêtée, elle a été remplacée par, par Marianne Kohn. Marianne Kohn, dont le pseudonyme était Marianne Collin. Elle était née en Allemagne, à Mannheim. Et elle aussi donc est finalement arrêtée avec un convoi de 17 enfants le 31 mai 1944. Et Alors elle, malheureusement, elle a été assassinée à Ville-la-Grand, en Haute-Savoie. Hein. Ce sont des noms de lieux que vous devez connaître, vous. Et c'est dans un lieu dit qui s'appelle La Rappe. Et on a retrouvé son corps, d'ailleurs, 10 jours après qu'elle ait disparu. Vous voyez, elle a disparu le 4 juillet 44, emmenée par des agents de la Gestapo venus de Lyon. Hein. Donc là, je voulais vous les citer. Et il y a ce qui est le plus connu en ce qui concerne Marianne Cohn, c'est le poème qu'elle a écrit en 1943 et qui figure maintenant dans toutes les anthologies de la résistance, de la poésie de la résistance. Je vous le lis brièvement. Hein. Ce poème s'intitule « Je trahirai demain ». Ça commence comme ça. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues, vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Alors voilà, je voulais vous citer les noms de ces deux femmes. Et je pense que mon temps est presque épuisé, c'est ça, non ? Ou dites-moi.
5 minutes,
d'accord. Parce que, voilà, je voulais mentionner le fait que, d'abord, la semaine prochaine est inaugurée à Drancy, où il y a aujourd'hui un mémorial qui fonctionne, vous voyez, un mémorial de la Shoah annexe de celui de Paris. On va inaugurer une exposition de photographies de tous ces résistants juifs qui sont encore vivants, puisqu'il en reste beaucoup vivants des différents réseaux. Et une jeune femme qui est une fille d'immigrés berbères du Maroc s'est passionnée pour la rencontre avec ces gens. Il y en a photographié 57, je crois. Et parmi eux, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait la sœur de Mila Racine, qui est toujours vivante, vous voyez, et qui est photographiée là-bas. J'ai une amie qui a fait du convoiement d'enfants et qui, elle, heureusement, n'a pas été arrêtée. Donc elle a 91 ans maintenant, Frida Wattenberg. Elle continue à témoigner, vous voyez, dans les classes sur ce qu'elle a fait. Et il y a un de ces convoyeurs à un niveau assez important. Enfin, justement, c'était plutôt les femmes, pour des raisons que vous comprenez, qui s'occupaient du convoyage d'enfants. Les hommes s'occupaient plus soit de la lutte armée dans les maquis, soit de la fabrication des faux papiers. Hein. Mais parmi ces fabricants de faux papiers, il y avait Léon Poliakov, le futur grand historien Léon Poliakov, qui était un jeune étudiant en droit à ce moment-là. Et quand vous lisez ses mémoires, L'auberge des musiciens, qui est un très beau livre. Tous ces livres sont intéressants, mais ce livre-là est un très beau livre de mémoire. Il vous parle donc de son activité de fabricant de faux papiers pendant la guerre. Donc, ce que je voulais dire simplement, si vous voulez, pour conclure, c'est vous citer d'abord le meilleur livre sur le sujet de la résistance juive en France, dans lequel j'ai relevé plusieurs dizaines d'occurrences de notre région ici. C'est le livre de Lucien Lazare, intitulé « La résistance juive en France hein. ». Il est déjà ancien, il est paru chez Stock en 1987, mais là-dedans, il y a vraiment une masse d'informations extrêmement précises et fiables. Lucien Lazare a reçu le prix de la JCF il y a une dizaine d'années, et il vient de sortir ses mémoires, dont quelques chapitres sont consacrés à son activité à lui de résistant, mais il a la chance d'être devenu l'historien du mouvement dans lequel il a lui-même milité dans sa jeunesse. Hein. Et d'autre part, vous avez un livre écrit par les anciens résistants juifs qui s'intitule « L'organisation juive de combat » aux éditions Autrement. Et là, vous avez 600 biographies, 600 notices biographiques de gens des différents réseaux, des différentes composantes, voyez, de la résistance juive. Alors, ce qui est assez ironique, c'est que ces 600 biographies n'incluent pas les résistants juifs de tendance communiste. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de divergences. Donc les juifs communistes ont fait leur propre livre avec des centaines de biographies de leurs héros à eux. Et puis là, donc, il faudrait combiner ces différents livres pour avoir une vue complète. Et c'est justement le mérite de Lucien Lazare d'avoir mis toutes les tendances ensemble, parce que lui, il travaille comme historien et non pas comme simplement militant de la mémoire, hein, comme on dit aujourd'hui. Et vous avez ce livre qui est paru ici dans la région. C'est le livre auquel le colloque auquel Eliane faisait allusion, le colloque intitulé « Résistance de l'esprit, esprit de la résistance », vous voyez, « Les échos salésiens hein, », c'est la revue d'histoire locale, donc c'est le numéro 21 qui rend compte de ce colloque. Et donc j'avais fait un petit texte Alors, sans rentrer trop dans les détails, vous voyez, j'avais donné en annexe de ma contribution un récit fait par Joseph Fischer, qui était un des grands chefs au niveau national du mouvement sioniste et de la résistance juive en France. Et Joseph Fischer raconte comment il a organisé des cours d'hébreu clandestins dans toute la France dans les années 41, 42, 43. Il raconte comment ils ont imprimé un manuel d'hébreu en 1942 à Lyon, alors qu'évidemment il n'y avait aucune imprimerie qui avait des caractères hébraïques, mais ils ont réussi à se procurer un livre américain, un manuel d'hébreu américain, et à le faire photographier par l'imprimerie du Progrès à Lyon. Donc ils ont organisé des cours, vous voyez, clandestins d'hébreu dans toute la France. Ils donnent le nom des différents militants impliqués là-dedans. Et très rapidement, vous voyez, je vais citer le fait qu'à Voiron, on avait un rabbin, le rabbin Schneerson, qui était le cousin du rabbi de Lubavitch de New York, vous voyez. Ce rabbin Schneerson avait organisé des écoles pour des juifs, pour des enfants juifs extrêmement orthodoxes. Et alors ça se trouvait à Voiron, mais ça se trouvait aussi au château du manoir à Saint-Étienne-du-Crossel, vous voyez, différents lieux de l'Isère, hein, dans le village de La Manche et à La Martelière. Et malheureusement, un certain nombre de ces enfants ont été arrêtés parce que lui était tellement attaché à l'observance religieuse stricte qu'il n'a pas pris toutes les précautions qu'il aurait fallu prendre. Il y a eu beaucoup de discussions avec la résistance juive, justement, sur les précautions à prendre auxquelles il n'a pas voulu se plier. Hein. Et alors son cousin, qui n'était pas le rabbi de Lubavitch de New York, mais encore un autre cousin, c'est Isaac Schneerson, qui crée en avril 1943 à Grenoble le Centre de documentation juive contemporaine, c'est-à-dire en fait le mémorial de la Shoah d'aujourd'hui, vous voyez, qui est né clandestinement dans la zone italienne en avril 1943, à une époque où il ne fallait pas se cacher, mais évidemment 6 mois plus tard, tout le monde a dû continuer clandestinement ce travail de documentation qui est aujourd'hui la base du mémorial de la Shoah. Hein. Alors, si on va un peu plus loin, vous voyez, je vais peut-être vous citer encore quelques bribes d'informations. À Grenoble, le 9 octobre 1943, la jeunesse sioniste célèbre Yom Kippour dans un local protestant avec 150 jeunes qui sont réunis. Vous voyez. Et on est sous l'occupation allemande, là, on n'est plus sous l'occupation italienne. Et de même, les éclaireurs israélites de France, en janvier 1944, font un stage de formation pour une trentaine de leurs cadres dans la Drôme, dans la ville de Die, hein, je crois qu'on doit prononcer Die, donc plusieurs dizaines de cadres font un stage de formation, vous voyez, clandestin évidemment, d'ailleurs en plein milieu du stage, on les prévient que les Allemands sont pas loin, et donc ils ont dû aller se mettre dans un endroit isolé pour se protéger. Il y a notamment Edmond Flegg, fondateur de notre association, qui est un des conférenciers de ce stage de formation de janvier 1944. Hein. Et Edmond Flegg, pardon, c'est pas dans ce stage-là, c'est dans un dispensaire catholique de Saint-Étienne dans la Loire, qui s'appelle le dispensaire de l'aide aux maires, que Edmond Flegg fait des conférences avec un certain nombre de grands intellectuels juifs, vous voyez, et les femmes qui animaient ce dispensaire de l'aide aux maires étaient très actives dans le sauvetage des juifs. Elles ont eu la médaille des justes, mais c'est aussi donc un lieu de vie spirituelle juive, vous voyez, à l'abri donc d'une institution catholique. Hein. Alors, je n'en dis pas plus, j'espère que j'ai pu vous faire partager, vous voyez, à la fois les concepts que j'ai essayé d'utiliser, la pertinence que ça a par rapport à notre réflexion dans l'amitié judéo-chrétienne, vous voyez, sur la rencontre du judaïsme dans toutes ses facettes. Le judaïsme pendant la Shoah présentait pas seulement la facette de la victime, mais aussi la facette du combattant juif, du combattant de l'esprit et du combattant armé. Voilà. Je vous remercie.
Merci infiniment, Philippe. Ce serait des heures parce qu'il y a vraiment beaucoup à écouter, beaucoup à apprendre surtout. Et ça remonte le moral pour les familles juives. Et ça nous fait du bien d'entendre tout cela, même si c'est loin dans le temps. Mais un temps qui se rapproche pour des choses difficiles encore aujourd'hui. Mais je pense que ce combat est toujours là. Garder tout ce que nous sommes ici, nos identités, et pouvoir être ce que nous sommes dans la vie. Pleinement. Alors notre amie Jeanne maintenant va nous parler. Je pense que on va lui passer le micro comme cela, c'est mieux, hein. Car elle a une grande expérience de tout ce qui s'est passé dans notre région, d'abord pour l'avoir vécu, pour avoir continué à œuvrer dans ce sens-là, d'où aussi le fait qu'elle soit bien sûr une des fondatrices de l'amitié judéo-chrétienne.
Bonjour à tous, bonjour chers amis. Je suis très émue d'être présente ce jour. Je suis une vieille dame. Je demande votre indulgence parce que je ne suis pas une conférencière, mais simplement un témoin de tous ces événements qui se sont déroulés évidemment tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Mais par contre, j'ai traversé 4 générations et j'ai déjà entendu parler de l'amitié judéo-chrétienne avant-guerre. Et il faudra que je vous demande votre indulgence, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que si parfois, lorsque je parle, quelque chose vous interpelle, ne vous gênez pas pour me poser question. Voici ce que je voulais vous dire. Je suis très touchée, mais surtout émue d'être présente à cette Assemblée Générale Nationale dans notre ville d'Annecy. Moi qui, certainement, suis la doyenne de notre association si amicale. Car cet événement est une première dans notre petite capitale au Savoyard. J'en suis très heureuse d'ailleurs. Les contraintes de la guerre m'empêchant d'aller à Paris y poursuivre des études du fait de l'occupation allemande. Il faut dire qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans et qu'à 18 ans, mes parents ne m'ont pas laissé partir à cause de l'occupation allemande à Paris seul. Je devais poursuivre des études à Paris du fait de l'occupation allemande. J'avais été proposée comme stagiaire contractuelle à la préfecture d'Annecy. Je n'ai cessé, et pour cause, de militer en faveur des populations persécutées par l'occupant nazi, dont l'idéologie perverse déferlait sur l'Europe entière. Très vite affectée au service des réfugiés, j'eus à connaître aussitôt le sort tragique réservé aux populations juives envers lesquelles furent édictées, dès le 3 octobre 1940, les lois raciales du gouvernement de Vichy. Sans parler du sort des résistants, réfractaires, opposants au régime, et dont j'eus à connaître aussi les souffrances et les incertitudes. Rencontrant au cours de ces années, mais sans le savoir, de hautes personnalités juives, des membres de la famille de Gaulle, etc., je n'imaginais pas alors où cela me conduirait. Très tôt, je fus confrontée dans ce service préfectoral à l'indifférence, voire parfois la passivité venant de personnes amies ou collègues qui ne se sentaient pas concernées. Et j'en éprouvais une révolte intérieure car je les considérais comme complices de ces monstruosités avérées. Cependant, il faut se reporter au contexte de l'époque et parfois de la terreur semée par l'occupant et de ses menaces de représailles. Ce qui me faisait mal surtout, c'est que pour justifier cela, parmi ces, entre guillemets, bons Français, il y en eut qui invoquaient le comportement des Juifs, avides d'argent, manipulateurs, financiers, etc., s'impliquant dans tous les rouages de la société. J'avais beau arguer que mieux que ceux qui les dénigraient, avec des slogans tout faits, des a priori, je savais combien ils étaient démunis, leurs biens spoliés, radiés de leurs emplois, sans aucun moyen d'existence, mis au ban de la société. Moi qui en recevais à longueur de journée, qui les connaissais mieux, je savais leur détresse. Comment réfuter les assertions de ces défaitistes ? Nombreux furent ceux piégés dans le département, venus des départements annexés d'Alsace, de Moselle, et qui, ayant tout abandonné, étaient démunis et ne purent passer en Suisse comme ils l'espéraient. Les Suisses ne furent pas toujours généreux pour l'accueil, je peux le prouver. Ce fut pour moi une grande souffrance constamment renouvelée durant toute cette période tragique. Bien sûr, il faut faire la part de ce qu'imposait la propagande nazie à notre population apeurée, invitant les Français à la délation. Mais en ce qui me concerne, j'ai été très vite approchée. Ça a été mon premier acte de résistance, si l'on peut dire, mais il était déjà dans mon cœur, il était programmé par l'amitié chrétienne en la personne de l'abbé Camille Follier, fils d'une famille de grands commerçants d'Annecy et qui était prêtre ouvrier, ce qui scandalisait un peu la famille, et qui approchait les gessistes, les jossistes, surtout à Paris, et qui nous a amené des passeuses, dont une qui était devenue mon amie, parce que ces filles étaient sans travail et qu'il les avait sollicitées. Donc j'avais déjà des engagements venant spontanément de mon cœur. Je me disais, si cet abbé nous convie à faire cela, il faut le faire. Et il a approché tous les prêtres de la frontière suisse en leur disant, mais que faites-vous en présence de tels événements? Quelle est votre réaction? Vous devez vous engager. Et c'est là qu'il y a eu toute une chaîne d'aide, d'entraide de ces prêtres qui étaient le long de la frontière. Donc c'est l'amitié chrétienne qui m'a engagé, qui m'a persuadé de faire cela. Ce fut la façon de faire de ces Français. Il faut dire en effet qu'il faut faire la part de ce qu'imposait la propagande nazie à notre population apeurée, invitant les Français à la délation. C'est pourquoi mon engagement était si difficile, mais je ne cessais de croire en la libération en me disant qu'alors, il faudrait plus que jamais parler, dénoncer, informer, mettre à jour les vérités premières, travailler inlassablement pour éradiquer cet antisémitisme chrétien qui a fait tant de mal et plus encore des millions d'innocentes victimes, crimes iniques et impardonnables. J'ai mieux compris tout cela lorsqu'on a fait passer les enfants juifs de la zone occupée, envahie par les Allemands, et que deux, trois familles d'Annecy se sont impliquées pour accueillir les enfants. Il y avait la famille, je le signale maintenant, mais c'est connu, du docteur voisin. Il y avait une grande maison et qui accueillait. Il y avait mes parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient. On mettait un matelas par terre parce que quand c'était le couvre-feu, on ne pouvait pas les acheminer. Et ma mère faisait une bonne soupe. Et je me rappelle d'une petite fille qui s'appelait Esther et à laquelle on a dit, si on t'interroge, tu t'appelles Élise. Et cette petite fille pleurait en disant, non, mes parents m'appellent Esther. C'était vraiment des choses qui nous serraient le cœur, je vous assure. Et c'est pourquoi j'ai été tellement bouleversée quand il y a eu la rafle des Marquisats, où on l'a emmené jusqu'à un petit garçon de 3 ans et demi que je connaissais, dont les parents avaient déjà été déportés. Tout cela m'a convaincue qu'il fallait persévérer sans cesse toute la vie durant. C'est pourquoi mon engagement était devenu si difficile, mais je ne cessais de croire en la libération, en me disant qu'alors il faudrait plus que jamais parler, dénoncer, informer, mettre à jour les vérités premières, travailler inlassablement pour éradiquer cet antisémitisme chrétien qui a fait tant de mal. C'est ainsi que très tôt, après la fin de la guerre 39-45, j'eus à connaître par les amis arons de Paris que nous avions protégés la création de l'amitié judéo-chrétienne à l'instigation de leur ami Jules Isaac, l'un des principaux fondateurs avec Edmond Flegg et le père Brahan que j'ai connu, jésuite, lui-même à l'origine de la revue « Rencontres chrétiens et juifs ». Je ne sais pas si vous avez connu cela. Je suivais ce combat mené à travers eux à Paris ou encore à l'étranger avec tous les miens. Nous suivions cela avec tous les miens. Jusqu'au jour où, ici, nous avions eu avec mon cher époux, aujourd'hui décédé, l'opportunité d'une rencontre avec Mgr Jean Sauvage, qui, venant de Lille, où il fut directeur du grand séminaire avant-guerre, avait déjà œuvré en ce sens dans le Nord, dont il était originaire, et où a très vite fleuri l'amitié judéo-chrétienne. Lui exposant notre proposition de créer ici une antenne relais de ce groupe d'amitié, il y adhéra spontanément et même nous encouragea vivement. Au cours de notre entretien, il appela alors le père Barcellini, ici présent, notre spécialiste maintenant dans le diocèse de la doctrine sociale de l'Église. Il le sollicita pour qu'il accepta d'être l'aumônier de cette cellule naissante, ce qui fut fait. Ainsi, depuis cette date, il y a environ 35 ans, le père Barcellini s'est investi avec cœur, compétence et un grand intérêt dans cette tâche pour lui comme un devoir exigeant. C'est pourquoi nous lui vouons une grande reconnaissance. Il y a eu alors des contacts avec la synagogue d'Annecy, présidée par M. Robert Mauss, fils de Rodolphe, fondateur de la communauté juive d'Annecy et environ, famille juive allemande et apparentée à Albert Einstein. Mais je n'ai été avant tout dans cette aventure qu'un modeste mais tenace et solide maillon de cette chaîne que nous avons bâtie ensemble. Parallèlement avec le groupe de Verrier du Lac, sous l'égide de sa présidente, il faut que je vous signale, c'est pour les Anneciens qui faisaient partie de cette assemblée, notre chère et regrettée Nathalie Rostand. Elle ne pouvait pas s'engager au nom de l'amitié judéo-chrétienne, elle était juive convertie. Elle m'a d'ailleurs dit plus tard qu'elle s'était convertie tout simplement pour sauver sa famille, et elle avait fait baptiser ses enfants, mais elle est revenue à son judaïsme après la guerre. Nathalie Rostand, d'autres amis très engagés dans ce dialogue, s'est formé un regroupement qui a pratiquement triplé depuis le départ, depuis le début. En 2000, à la demande de Nathalie, ce fut Eliane Ventre qui lui succéda, présente depuis 1986 avec une très grande fidélité et compétence. Elle conduit ce groupe, aidée par nos six actifs amis annéciens, aixois et chambériens, que nous remercions de tout cœur pour leur implication et leur dévouement à cette noble cause. Je vous répète que je ne suis pas une conférencière et que j'ai essayé de réunir mes souvenirs. Toutes nos rencontres fraternelles et fructueuses nous ont aidés à découvrir de plus en plus nos racines interreligieuses. Je crois vraiment que cette mission que nous accomplissons ensemble, très chers amis, doit toujours nous tenir à cœur. C'est inlassablement que nous devons poursuivre ce combat si nous voulons que les forces du bien l'emportent sur celles du mal. Mais aussi pour illustrer l'article 2 de nos statuts que je vous rappelle et qui, par sa lecture, est une réponse très explicite à ceux qui se renseignent sur les buts et actions concrètes de notre engagement agissez. Beaucoup d'espoir nous sont donc permis à condition de tenir fermement la barre. Et j'en terminerai avec cette assertion d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, auprès de qui en 2008 j'eus l'honneur de ranimer la flamme du souvenir sur la place des Nations à Genève, devant plus de 5000 personnes lors de l'anniversaire de la Shoah. « Tant que nous nous souvenons, tout est possible », affirme-t-il sans cesse. « Que les générations nouvelles n'oublient jamais d'accomplir ce devoir de mémoire pour sans cesse, ce devoir de mémoire, pour poursuivre sans cesse ce rude combat indispensable à la survie de l'amitié judéo-chrétienne en ce monde. J'en ai fini, mais je vous remercie pour votre attention.
Je vous propose de poser quelques questions à nos conférenciers, parce qu'il y a une richesse, vous avez bien compris cela, dans leur savoir, dans leur mémoire. Alors, qui veut commencer, Monsieur Lelouch?
West, moi je voulais remercier d'abord...
Je l'ai fermé.
Je voulais remercier d'abord chaleureusement nos conférenciers. Je voulais dire aussi à Monsieur Bougrat combien j'appréciais sa version équilibrée de la présentation qu'il nous a faite. Et j'en profite pour lui demander une question. Est-ce qu'il pourrait nous fournir une interprétation ou quelques éléments, quelques pistes de compréhension historique pour lui, pourquoi il y a eu si peu de mouvements de résistance française qui étaient directement intéressés à défendre les Juifs?
Je ne sais pas si ça marche.
Évidemment, la réponse est complexe à votre question, et il y a une interprétation très pessimiste qui serait que les Juifs étaient seuls au monde et qu'il n'y avait pas de sympathie pour eux. Enfin,
il y a quelque chose de vrai dans cette vision pessimiste, puisqu'il y a quand même eu les justes et toutes sortes de gens qui ont aidé les juifs. Mais ce qui pose problème, c'est que les gens qui ont aidé les juifs n'étaient pas tellement dans la résistance. C'est-à-dire que c'est ce décalage entre la résistance organisée et ceux qui aidaient les juifs. Hein. Donc là, il y a un vrai problème d'une certaine forme d'indifférence, effectivement. En même temps, alors, si on essaie de nuancer ça avec un point de vue d'historien qui se veut le plus objectif et le plus nuancé possible, d'abord, il y a la compréhension de la menace n'allait pas de soi. C'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, on sait que tout ça s'est terminé par un grand massacre. Sur le moment même, ça n'allait pas de soi de comprendre les choses. On avait éventuellement des bribes d'informations, mais on avait aussi beaucoup d'intoxication pour ne pas voir les choses, ne pas les comprendre. Donc ça demandait beaucoup de discernement, de pas se tromper sur l'interprétation de ce qui était en train de se passer. Donc déjà, il y a ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait une menace grave et immédiate sur la vie des Juifs. Et il y a ceux qui l'ont compris, mais qui étaient inhibés dans leur action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la problématique des justes qui est très intéressante, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire le fait que de tirer de ces valeurs morales une action concrète, y compris en prenant des risques pour soi-même. Parce que avoir une sympathie platonique pour les juifs et ne pas agir, vous voyez, il est arrivé pendant la guerre que des gens qui étaient farcis de préjugés contre les juifs ont aidé à la survie des juifs. Et il est arrivé que des gens qui disaient aimer les juifs et avoir de la sympathie pour eux n'ont rien fait du tout pour les aider. Il y a même des gens, amis des juifs, qui sont passés de l'autre côté. C'est un sujet assez désagréable, mais enfin, ça a existé. Donc c'est vrai que c'est difficile de bien comprendre dans chaque cas particulier pourquoi certains ont agi et certains n'ont pas agi. Vous voyez, ce que j'ajouterais aussi, c'est que... Je vais donner un argument un petit peu plus noble, si vous voulez, que ça, qui relève pas simplement de la morale personnelle des résistants. Toute la propagande des nazis et des alliés des nazis consistait à dire que les juifs étaient des gens extrêmement puissants qui dominaient le monde. Et c'est justement parce que les juifs étaient censés dominer le monde que les nazis voulaient se présenter comme des victimes des juifs, qu'il fallait les Allemands étaient censés souffrir de la domination par les juifs et se défendre contre une agression juive. Vous voyez, c'était ça la vision bizarre du monde que les nazis avaient. Et à chaque fois que les résistants ou les alliés ont fait quelque chose de concret pour aider les juifs, ils se sont posé la question, est-ce que ça ne va pas confirmer les théories des nazis, vous voyez ? C'est-à-dire que en agissant pour aider les juifs, en fait, on avait l'air superficiellement de confirmer la théorie que les alliés ou les résistants étaient des agents des juifs. C'était ce que disait la propagande de l'ennemi. Et donc, il y avait un grand scrupule de la part des alliés ou des résistants à donner crédit à cette théorie, vous voyez ? Donc, ils étaient très prudents. En fait, alors, là, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Il y avait dans la population française un certain nombre de préjugés négatifs contre les Juifs. Les historiens, là encore, nous disent que ça n'est pas allé très loin. C'est-à-dire que Vichy, au sommet, a fait des choses très graves contre les Juifs, que la population française, dans sa masse, n'a pas beaucoup adhéré à ça. Mais il y avait des préjugés latents contre les Juifs. Et donc, les résistants ont fait tout en 40-41 pour ne pas donner prise à une critique où on leur dirait « vous êtes des agents des Juifs ». Vous voyez, vous avez compris l'idée. Alors, évidemment, à l'été 42, quand il y a eu des rafles particulièrement cruelles, visibles de tous, là, l'opinion publique a basculé. Tout le monde est d'accord pour dire que là, il y a eu un basculement de l'opinion publique. Et donc, la résistance et les alliés n'ont pas eu peur de condamner ouvertement la persécution, vous voyez, parce qu'ils ont compris que ça ne leur porterait pas atteinte. Ça ne les couperait pas de la population. Hein. Mais c'est pour ça que dès que l'été 42 est passé, ils sont revenus à une posture très prudente, vous voyez, sur ce sujet-là. Et cette manière de ces calculs tactiques, on les retrouve même parmi les Juifs qui se trouvent à Londres auprès du général de Gaulle, qui étaient assez nombreux, par exemple, dans les services de propagande. Ils reçoivent des informations précises qui leur expliquent qu'il y a un massacre en cours à une grande échelle en Europe. Et donc, en tant que Juifs, ils sont bouleversés. Mais en tant que fonctionnaire de la France libre, il décide de ne pas mobiliser pleinement les moyens de la France libre parce que ce serait nuisible à la France libre elle-même. Donc c'est une sorte de sacrifice patriotique, vous voyez, de la part de ces résistants juifs. Mettons entre parenthèses notre sensibilité de juif et ce qui est important, c'est que la France libre soit forte, vous voyez, que la résistance soit forte. On retrouve à chaque fois ce genre de calcul. Il y a même un témoignage qui m'a beaucoup ému de Daniel Cordier. Vous savez qui c'est, le secrétaire de Jean Moulin, qui est toujours vivant, qui est un grand témoin. Il raconte une scène à l'été 42 où à Lyon, Jean Moulin et Georges Bidault sont en train de discuter dans un appartement des activités secrètes de la résistance. Et au même moment, dans le quartier, il y a une rafle de juifs. Vous voyez, C'est la grande rafle de la fin août 1942. Et alors, Cordier se rappelle que les deux grands dirigeants de la résistance apprennent ce qui est en train de se passer à côté de chez eux. Ils sont très émus, mais ils continuent leur discussion technique pour résoudre les problèmes de la résistance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans deux histoires différentes qui se touchent, mais qui, à un moment donné, sont deux histoires différentes. Bon, c'est un sujet qui est très délicat, mais qu'il faut essayer d'approfondir. Hein, voilà.
Je voulais juste ajouter un petit complément à ce qui vient d'être dit. C'est qu'en août 1942, au moment où Bidault, c'est à ce moment-là où il y a eu mobilisation de l'Amitié chrétienne avec l'abbé Glasberg, etc., qui ont sauvé les 89 enfants du camp de Vénissieux. Et j'ai pu faire mettre une plaque le 30 août, à l'anniversaire, parce qu'ils ont été déportés, les adultes ont été déportés par la gare de Saint-Priest. J'habite à Saint-Priest. Et le 30 août l'année dernière, on a mis une plaque pour la déportation de ces 545 juifs. Donc, il y a eu des scènes déchirantes, puisque les enfants ont été séparés et ont été répartis dans toute la région, grâce au cardinal Gerlier, l'abbé Glasberg, les amitiés chrétiennes, protestants, etc. Et sur ces 545 qui ont été déportés de la gare de Saint-Priest, il y a eu un seul survivant, donc Drancy et Auschwitz.
Écoutez, je voulais apporter un témoignage très modeste qui illustre tout à fait ce que Philippe a dit, ce que Philippe a décrit, à savoir que mes parents avaient été évacués de Toulon où ils étaient, où ils avaient leur vie, leur commerce et leurs ateliers, après 42, puisque comme j'étais née, ils évacuaient toutes les familles avec des jeunes enfants. Et ils ont été évacués dans l'Isère, où ils ont pris en gérance un hôtel. Et il se trouve que... Bon, mon père était communiste, mais il n'avait pas une sympathie particulière pour les Juifs. Il s'est trouvé que il a dû héberger et nourrir tout le restant de la guerre des Juifs qui étaient plutôt des Parisiens, mais qui s'étaient trouvés là à un moment pour leurs affaires et qui se sont retrouvés coincés, ne pouvant pas rentrer à Paris. Donc ils ont été hébergés à l'hôtel et nourris jusqu'à la fin de la guerre. Mais à côté de ça, il y avait naturellement des réseaux de résistance qui grouillaient autour de l'hôtel, qui faisaient régulièrement des descentes, qui raflaient tout, la nourriture, les cigarettes, etc. Donc mes parents se trouvaient entre deux feux qui n'étaient pas forcément... entre deux groupes de gens qui n'étaient pas opposés, mais qui avaient chacun leurs intérêts. Et il est même arrivé que les Allemands avaient fait un mouvement pour s'emparer des résistants. Et les résistants, enfin une partie des résistants, étaient cachés dans le grenier sous des vieux matelas. Donc il y avait à la fois les clients juifs qui étaient là, incognito, on espère, et les résistants qui étaient cachés dans le grenier. Donc voilà, pour des gens qui n'avaient pas forcément réfléchi à la question et éprouvé une grande sympathie pour les Juifs, ils se sont trouvés, bon, comme souvent on dit, voilà, les choses étaient comme ça, ils ont fait ce qu'ils pensaient qu'ils devaient faire, autant pour les Juifs que pour les résistants.
Merci. Voilà. Merci, merci. Dernière question. Ce sera la dernière question. Ah bon, vous avez deux.
Oui, Paris-Ouest. Moi aussi, je voudrais remercier Madame Brousse pour son courage et Monsieur Boucara pour son activité d'historien au service de la vérité, tout simplement concernant cette période. Je voudrais rajouter une précision pour répondre à la question d'Alain, c'est-à-dire la relative discrétion des mouvements de résistance à l'égard des Juifs. Le général de Gaulle, pendant la guerre, a été caricaturé par la propagande de Vichy en juif. Il était présenté avec un nez crochu et il était accusé d'être au service du lobby juif. Et Raymond Aron, dans ses mémoires, dit qu'il a été particulièrement discret à la radio de Londres pour justement ne pas être accusé de servir le lobby juif. Je voudrais aussi rappeler deux citations du général de Gaulle qui rend hommage à la résistance juive pendant la guerre, la résistance patriotique, non pas la résistance juive. Il a dit au début de la guerre « Je croyais voir venir à moi la France des cathédrales, j'ai vu venir à moi la France des synagogues ». Et à la fin de sa vie, quand on lui a demandé de réfléchir à ce qu'avait été cette épopée de la France libre, ils n'ont été quand même qu'une petite minorité, 60 000 sur un pays qui avait 40 millions d'habitants, eh bien il a dit finalement, qui avais-je autour de moi? Quelques aristocrates, allusion à Philippe de Haute-Cloque, des Bretons et des Juifs. Et mon père en a fait partie, puisqu'il a rejoint au début de la guerre le général de Gaulle.
Merci. Alors, il y avait la dernière question, voilà.
Merci. Bernadette Avon d'Aix-en-Provence. C'est juste une information. Madame Brousse, tout à l'heure, a évoqué le père Brown. On ne parle pas beaucoup de lui, il n'est pas très connu. Or, il y a un jeune chercheur qui s'appelle Frédéric Lunel, qui vient de passer sa thèse sur le père George Brown et qui est tout à fait prêt à venir en parler dans les groupes. Nous, on l'a fait venir le mois dernier à Aix-en-Provence. C'est tout à fait fabuleux, ce qu'il a, le travail qu'il a fait. Il a mené un travail d'enquête extrêmement précis et passionnant. Voilà.
Merci.
Donc, si vous voulez savoir comment le contacter, vous pouvez peut-être m'envoyer votre demande et je vous communiquerai son adresse parce que je ne l'ai pas en tête, là, pour le moment.
Bernadette Avon. Alors, il y a deux messieurs importants.
Simplement dire qu'il y a un article de Sens qui est en cours de rédaction.
Donc, vous aurez, Sens va publier le résumé de la thèse de cet étudiant.
Ah, ben bah voilà, très bien, très très bien. Bravo.
Oui, cher Philippe, tu as parlé de ce petit journal clandestin de Paris, La France continue, en nous disant qu'il était animé par des intellectuels catholiques. Est-ce que tu peux nous donner les noms de ces intellectuels catholiques? Merci.
Merci. Je sais que Bruno me tend la perche parce qu'on en a déjà parlé ensemble, et le plus connu d'entre eux, c'est Paul Petit, qui est un bonhomme assez extraordinaire. Enfin, c'était tous des gens qui avaient un niveau... Oui, alors, j'ai pas tous les détails en tête, mais c'était tous des gens qui étaient des sommités universitaires dans leur domaine, des gens qui... Je crois qu'il était diplomate, c'est ça ?
Il a traduit Maître Eckhart.
Donc des gens qui connaissaient parfaitement plusieurs langues et qui traduisaient des livres d'une langue à l'autre. Donc c'était vraiment un groupe d'intellectuels qui avaient de plus haut niveau... Qui malheureusement ont payé de leur vie, c'est-à-dire que pratiquement tous ont été tués, et ils ont été tués dans soit immédiatement en 42 quand ils ont été pris, soit un peu plus tard dans des prisons allemandes. Mais enfin, c'est vraiment des héros de la résistance chrétienne en France. Hein, oui, alors j'ai pas les noms en tête. Il y a Mariette Martin, il y a une femme qui était aussi considérée comme une sorte de martyre chrétienne de la résistance. Hein, et les autres noms, on pourra les publier, si vous voulez, une autre fois, mais c'est vraiment un groupe à mettre en valeur. Alors, ce que j'ai découvert, justement, vous voyez, ça recoupe un peu la présentation que je vous ai faite, c'est que ce groupe était financé avec de l'argent juif. C'est-à-dire que c'était l'Alliance israélite universelle qui avait gardé un peu d'argent à Paris et qui, discrètement, a voulu aider ce groupe qui était pratiquement le premier groupe de résistance français à s'occuper des Juifs et à défendre les Juifs. Vous voyez. Et d'ailleurs, il y avait une femme juive qui s'appelait Suzanne Feingold, qui était de l'Alliance israélite et qui faisait partie du groupe. C'était la seule juive dans ce groupe de catholiques. Voilà. J'y pensais pas, mais ça confirme, vous voyez, mon hypothèse de travail, quoi. Si vous me permettez un petit mot, parmi les personnalités que j'aurais voulu citer, il y avait l'ancien... Où est mon papier? Il est là. Oui, l'ancien chef de cabinet du préfet de Savoie, au début de la guerre, qui s'appelait Alain Mossé. C'était un jeune intellectuel juif, un littéraire, qui écrivait des poèmes. Et il a été licencié de son poste de chef de cabinet du préfet avec les lois anti-juives de 1940. Et il se retrouve ensuite responsable des œuvres sociales juives dans la région. Et lui aussi, en 1943, vous voyez, il a payé de sa vie son activité pour faire passer des enfants en Suisse. Enfin, il était dans le réseau qu'on appelle l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Et c'est un personnage très intéressant, vous voyez, qui est mort à 26 ans, je crois, dans son activité de résistant juif. Hein.
Alors, je pense que par rapport au temps, et ça n'est pas dû qu'on aurait pu aller 10 minutes, 20 minutes en plus, nous ici, mais c'est l'horaire du bateau. Donc on est vraiment obligé, et dans le mouvement que nous devons faire pour aller vers ce bateau, on est obligé de raccourcir. Alors il y a une petite, mais j'ai dit une minute à monsieur Groffil. Venez faire votre... Mais une minute !
De 5 minutes !
Non, non !
De 5 minutes, j'ai accepté 2 minutes, maintenant c'est 1 minute. Non, non. Donc je vais simplement vous annoncer que le groupe Jules Isaac, qui est le groupe d'amitié judéo-chrétienne rennaise, organise le 22 novembre un colloque sur Nostra Aetate avec des intervenants remarquables, bien entendu. Mais une chose qui est quand même très intéressante, qui est à remarquer, c'est que ce colloque qui est organisé par un groupe d'amitié judéo-chrétienne est organisé en relation avec l'Église catholique et avec l'association israélite. C'est-à-dire que cette relation est faite et un ami évêque qui est maintenant âgé aussi m'a fait remarquer que finalement l'amitié judéo-chrétienne et le groupe Jules Isaac pouvaient être traits d'union entre l'Église catholique. C'est pour ça que ce petit tract que je mettrai là-bas, il y a le support, il y a le groupe Isaac, entre le logo autorisé par notre évêque de l'Église catholique et le logo de l'association israélite avec leur accord. Voilà, on est tous ensemble. C'est magnifique. J'ai pas dépassé. Ça va.
En tout cas, merci à tous, mais devant tous aussi, je souhaitais dire un grand, grand merci d'abord à ceux qui sont venus, bien sûr, mais au groupe de pilotage de nos amis annéciens, de notre groupe, qui ont contribué formidablement à tout ce vécu de ces 2 journées. Merci, 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 parce que sans ce groupe... on n'aurait pas pu faire tout ce que nous avons fait ensemble. Et comme ils ne viennent pas avec nous sur le bateau, en tout cas, je souhaitais que vous les remerciez. Et c'est fait. Merci beaucoup. Merci Jeannette. Merci Philippe. Merci à vous aussi, Jacqueline.
Merci à vous, Eliane, et à tout le groupe qui nous a reçus de façon merveilleuse.
Avec grand bonheur. Avec grand bonheur.
Moi, je t'en prie.